Donc nous allons poursuivre notre parcours là sur la messe. Cette fois-ci, en fait, je vais me limiter à la prière eucharistique, parce que déjà je crois qu'on aura trois qu'à faire. Donc, alors d'abord une longue introduction. Dans le sens où la prière eucharistique, donc après le Sanctus, c'est la prière, la partie un peu la plus mystérieuse de la messe quelque part. Et du coup, c'est peut-être là où finalement on est moins attentif, paradoxalement. Alors que c'est vraiment le moment le plus important, mais bon, déjà parce que habituellement c'est à peu près le même texte à chaque fois, tandis que ça varie un peu plus dans la liturgie de la parole, donc ça attire un peu plus notre attention. Là, c'est un peu différent. Là aussi, les fidèles, ils font pas grand-chose pendant la prière eucharistique. Bon, il y a l'anamnèse, et puis il y a la doxologie finale, mais sinon, c'est le prêtre qui travaille à ce moment-là. Aussi parce que c'est vrai que c'est des questions qui nous sont peut-être moins familières quand il est parti par question de sacrifice, de mémorial. Et puis, on peut peut-être tenter de penser, pourquoi pas raccourcir un peu la prière eucharistique. Alors, d'ailleurs, dans l'introduction au missel, la présentation du missel, vous pouvez trouver ça sur Internet, ils disent, mais c'est bien d'équilibrer que vous ne passez pas une demi-heure d'homélie et puis cinq minutes pour la prière eucharistique. D'équilibrer un peu le temps. Et bon, ça peut être une... Voilà, alors... Du coup, raison de plus d'approfondir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que cette prière eucharistique. Donc, eucharistie, vous savez que ça veut dire action de grâce, je ne vais pas détailler tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il y a des ancêtres, en quelque sorte, de la prière eucharistique. Est-ce que vous connaissez des ancêtres de la prière eucharistique dans la Bible? En fait... Et ce mode de prière, dans la prière eucharistique, il y a tout un mouvement. Alors, j'insisterai un peu plus après là-dessus, mais si vous allez, par exemple, dans Isaïe, chapitres 63 et 64, il y a d'abord toute une histoire du peuple d'Israël avec, pour célébrer les grâces du Seigneur, les louanges du Seigneur, tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Alors, donc, et puis après, donc c'est d'abord un mémorial aussi, se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et après, on demande des choses à Dieu. Alors déjà, on reconnaît ses fautes, etc. Et puis, et pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes l'œuvre de tes mains. Peux-tu rester sensible à tout cela, Seigneur, à tous nos malheurs et tout ça? Et donc, c'est plus la partie intercession. Et quelque part, on a déjà un peu la structure de la prière eucharistique. Là. Alors, vous pourriez regarder aussi dans Néhémie, les chapitres 8 et 9. Vous pourriez, dans des psaumes aussi. Donc, on se rappelle de tout ce que le Seigneur a fait, mais après... Souvent pour lui demander quelque chose, dans la liturgie familiale juive aussi. Il y a ce schéma, louange, action de grâce, supplication. Donc, dans tous ces cas, on rappelle le passé pour demander à Dieu de continuer dans le présent et d'achever dans l'avenir. Ces trois dimensions, passé, présent, avenir, sont vraiment présentes dans ce... Et c'est ce qu'on retrouve d'une autre manière dans les prières eucharistiques. Le début, on s'émerveille de la sainteté de Dieu dans le prolongement du Sanctus, Saint, Saint, Saint. Et puis après, justement, on actualise ce salut qui nous est donné par Jésus. C'est le mémorial, la consécration. Et après, il y a un certain nombre d'intercessions dans la prière eucharistique. Alors, vous connaissez combien de prières eucharistiques? Tiens, j'ai oublié, je voulais en apporter un. C'est bien, ma cousine, c'est bien. En fait, il y en a quand même un peu plus, mais Alors, il y a les quatre prières les plus usuelles, sachant que la quatre, on ne l'entend pas toujours très souvent, mais dans les missels, souvent, il y a quand même les quatre. Mais après, il y en a d'autres aussi. Il y a des prières. Oui, il y a pour les enfants, mais il y a aussi des prières pour les circonstances particulières, notamment pour la réconciliation. Il y a deux prières eucharistiques pour la réconciliation. Il y a aussi des prières pour des assemblées particulières de diverses circonstances. Voilà, l'Église en marche, l'unité, le service, la mission, voilà. Et puis les prières pour les enfants, mais qui sont assez encadrées, on ne les utilise pas n'importe quand. Voilà. Donc il y a déjà 10 prières eucharistiques labellisées, plus celles 3 pour les enfants, je crois. Voilà. Mais les plus connues, c'est quand même les 4 prières qu'on trouve. La première qu'on appelle le canon romain, hein, la prière numéro 1, qui est très ancienne, hein, c'est une prière très ancienne, qui a eu des petites modifications, mais pour l'essentiel, elle n'a pas beaucoup changé. Ce n'est pas cette prière que je vais commenter, je vous expliquerai pourquoi. On peut la prendre tous les jours, la prière, elle est plus solennelle, hein, c'est une prière plus solennelle, plus longue. Après, il y a la deuxième, c'est la plus courte, qui s'inspire de Saint Hippolyte, hein, donc c'est le deuxième siècle, si mes souvenirs sont bons, donc c'est pas exactement la même, mais elle est beaucoup plus brève et elle est souvent utilisée en semaine. Après, il y a la prière eucharistique 3. Je vous détaille pas trop sur les prières eucharistiques, mais la troisième, elle est souvent utilisée le dimanche, pas toujours, mais bon, après, le prêtre, il choisit celle qu'il veut, mais celle-là a été composée après le Concile Vatican II. Alors, c'est celle-là que je vais commenter parce que elle a l'avantage d'être peut-être plus claire, plus pédagogique, plus... On voit bien le fil dans cette prière eucharistique 3. Tandis que dans la première, c'est plus compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Parce que, bon, il y a beaucoup de... Voilà. C'est au choix du prêtre, oui. C'est au choix du prêtre. Les trois premières, c'est au choix du prêtre. La quatrième, on ne peut pas toujours la prendre parce qu'on doit toujours la prendre avec sa préface. La quatrième, elle est... c'est plus narratif, hein. L'introduction de la prière est beaucoup plus longue dans la quatrième, mais elle est très belle aussi, hein. Elle est très belle et elle est moins souvent prise par les prêtres. Ça dépend des prêtres, il y en a des prêtres qui la prennent fréquemment, mais voilà. Donc juste un tout petit aperçu donc sur ces prières eucharistiques. Alors donc j'ai pris la troisième donc parce que pour expliquer, je trouve que c'est plus facile à partir de la troisième. Elle est plus épurée quelque part. Et le mouvement de la prière eucharistique, on le voit mieux dans la prière numéro 3, par exemple, que dans la prière numéro 1, où c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver. Mais ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre, hein, mais c'est un angle différent. Dans cette prière eucharistique 3, il y a aussi des thèmes qui ont été abordés au Concile, une attention à la création. Au début, on verra une attention à l'Esprit-Saint. Il est davantage présent, nommé dans la prière 3 que dans la 1, par exemple. C'est ça. Voilà, sur l'Église comme communion, c'est peut-être plus clair dans la prière numéro 3 que dans d'autres. Voilà. Ça va, donc maintenant, je vais suivre grosso modo le papier que je vous ai passé. Vous l'avez tout, hein. Donc j'ai mis des titres comme ça, vous avez le plan cette fois-ci, hein, pour une fois. Donc ce que j'ai appelé l'introduction, donc on voit dans cette introduction, c'est vraiment le passage entre le Sanctus, hein, après, à la fin de la préface, et le cœur de la prière eucharistique. Hein, tu es vraiment saint, alors la deuxième c'est toi qui es vraiment saint aussi, la sainteté de Dieu. Et qui est toi qui es la source de la sainteté. Alors du coup, c'est aussi la prière eucharistique où justement Dieu va nous faire part de sa sainteté. Alors là, on parle de toute la création qui proclame la louange, chaque créature. Ça, c'est quelque chose peut-être auquel on est plus sensible aujourd'hui. Il n'y a pas que l'homme. Alors ça reste un petit mystérieux, mais il y a des phrases de Saint Paul où il parle que c'est toute la création qui attend d'être sauvée par Jésus. Alors, et dans la parole de Dieu, souvent, on parle que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Alors souvent, on appelle les créatures justement à louer le Seigneur. Voilà. Et alors, on entre dans le Sanctus, c'était plus avec les anges. Et là, c'est aussi avec toute la création qu'on entre pour louer Dieu. Voilà. Et c'est nous qui sommes l'interprète de la création, en quelque sorte. Voilà. On demande à Dieu donc qu'il nous communique sa sainteté, qu'il nous... Un toi qui donne la vie, qui sanctifie toutes choses. C'est ça. Et on passe petit à petit, est une espèce de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Alors c'est d'avoir l'offrande de Jésus, mais c'est aussi nous qui sommes appelés à nous offrir, comme dit dans l'Épître aux Romains, la deuxième partie qui commence au chapitre 12, c'est de s'offrir à Dieu. C'est notre vie chrétienne de se donner à Dieu. Voilà. Après cette transition, on pourrait dire, entre le Sanctus et l'institution, on a ce qu'on appelle la première épiclèse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'épiclèse, c'est appelé sur, c'est là qu'on invoque l'Esprit Saint. Donc il y a une première qui est avant la consécration. On invoque l'Esprit Saint. Il y en aurait une deuxième après la consécration. La première, c'est sur le pain et le vin. La deuxième, c'est sur le corps mystique, donc sur les fidèles qui sont présents. Donc, on invoque l'Esprit Saint. Ça, c'est beaucoup plus explicite dans la prière numéro 3. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, et à ce moment-là, les prêtres imposent les mains. L'Esprit Saint n'était pas forcément nommé explicitement dans la prière numéro 1, le canon. Là, ça peut nous évoquer l'Annonciation où l'Esprit Saint vient sur Marie. Ça peut nous évoquer aussi la prière sacerdotale où Jésus demande au Père de communiquer sa sainteté à ses disciples. Donc l'épiclèse, là on invoque l'Esprit Saint. Pour les orientaux, c'est déjà à ce moment-là que le pain et le vin sont transformés dans le corps et le sang de Jésus, mais pas pour les occidentaux qui considèrent que c'est le moment proprement dit de la consécration. Voilà. Mais là donc c'est l'épiclèse. Le prêtre, pendant l'épiclèse, donc, impose les mains. C'est un geste qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu, d'imposer les mains, en lien avec l'Esprit Saint. Donc, alors, quelques endroits où on le voit dans la parole de Dieu, par exemple, dans Saint Luc, quand il est sur les malades, souvent, il leur impose les mains. Ou alors, dans les Actes des Apôtres, on voit aussi que les apôtres, justement, imposent les mains pour que certains deviennent diacres. Donc, Ananie impose les mains sur Paul, voilà, en disant « Sois rempli de l'Esprit Saint ». Voilà, enfin, ça revient souvent, notamment dans les Actes des Apôtres, ça revient souvent, cette imposition des mains. Donc, habituellement, tous les prêtres, quand il y a des concélébrants, je ne vais pas trop parler de la concélébration là, mais tous les prêtres imposent les deux mains à ce moment-là. Après, au moment de la consécration, quand il y a des concélébrants, c'est plus l'acte de désigner. C'est pas exactement la même chose. Mais je ne vais peut-être pas rentrer dans toutes ces subtilités, mais vous pouvez me poser des questions. Et le dernier élément que je voulais évoquer dans cette épiclèse, c'est qu'on dit que sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Quelque part, on se réfère à Jésus qui nous a confié ce pouvoir de transformer le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Donc, Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand on parle de mandatum. Quelquefois, on en parle pour justement pour le lavement des pieds. C'est le commandement que le Seigneur a donné. Mais ça, c'est un commandement de renouveler. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un autre commandement de Jésus. Et quelque part, dans cette prière eucharistique numéro 3, il y a un lien implicite entre le lavement des pieds et ce commandement de renouveler les gestes que Jésus a fait à la dernière scène. Voilà, alors ça c'était la première épiclèse. On arrive au récit de l'institution. Alors sur la feuille, je vous ai mis en italique ce qui est dans le missel. Vous y êtes peut-être pas très habitués, les gestes, c'est assez précis dans le missel, ce qu'on doit faire ou pas faire. Voilà, alors, vous savez tout, il y a les paroles, mais il y a les gestes qui sont importants. Alors, oui, c'est très codifié. Avec une certaine souplesse, mais quand même, c'est assez codifié. On ne fait pas vraiment ce qu'on veut. Parce qu'on fait ce qu'il nous a dit, justement. Et non pas chacun sa... Donc c'est assez codifié avec une certaine souplesse. Voilà. Donc le récit de l'institution, donc on se resitue, vous vous rappelez, on l'a évoqué au début de l'année, on se resitue dans le CEDER ou dans la dernière scène. Alors, c'était peut-être pas exactement le CEDER que Jésus a célébré le jeudi saint. Je vais pas rentrer dans les détails. Ça, vous pourriez, si ça vous intéresse, approfondir ça. Il y a Benoît XVI qui en parle assez longuement dans son deuxième tome de Jésus de Nazareth. Il y a tout un passage là-dessus. Pour comprendre comment s'articule ce que les différents évangélistes et les différents évangiles, ils racontent pas les choses exactement de la même manière. Alors comprendre comment ça s'est fait. Du coup, pour faire simple, Benoît XVI dit en fait, c'était pas exactement le CEDER parce que normalement l'agneau était immolé au temple et il était mangé ensuite en famille. Du coup, le jeudi saint, c'est avant le vendredi saint, donc comment on fait ? Et saint Jean, dans son évangile, insiste pour dire que, justement, c'est à l'heure où les agneaux sont immolés que Jésus est immolé, il fait un rapprochement assez... Donc, Benoît XVI nous dit, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que finalement, Jésus a fait ce qui ressemblait à un CEDER, mais qui n'était pas vraiment le CEDER, mais il n'y avait pas d'agneau, justement. Et à la place de l'agneau, c'est le pain qu'il a consacré. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà. Mais il l'a fait pour manifester sa liberté. C'est librement qu'il a donné sa vie. Et c'est pas parce qu'on lui a prise, mais c'est parce qu'il l'a donnée. Et de ce point de vue-là, le jeudi saint est important pour nous dire que c'est vraiment librement que Jésus a donné sa vie. Après, dans saint Matthieu en particulier, vous voyez qu'il y a plusieurs coupes. Si vous lisez l'évangile de saint Matthieu, il y a plusieurs coupes. Parce que dans le CEDER, il y avait quatre coupes. Dans saint Matthieu, on en trouve trois sur les quatre. Mais donc, c'est à la troisième coupe, il y en a eu deux avant, et que après une sorte d'homélie, c'est là que Jésus a consacré le vin qui est devenu son sang. Donc, c'est la formule la plus complète, semble-t-il, celle de saint Matthieu. Alors, quelques particularités selon les prières eucharistiques. Alors, la prière eucharistique 1, de ce point de vue-là, elle peut nous aider dans notre dévotion et dans notre... les mots qui sont choisis, alors c'est plus simple dans la prière 2 ou la 3. Dans la prière, la première... On insiste sur l'aspect sacré. Je vous lis. Il prit le pain dans ses mains très saintes. Il y a beaucoup de superlatifs. Il prit dans ses mains cette coupe incomparable, dans ses mains saintes et vénérables. Alors, on parle dans la première Eucharistie que Jésus lève les yeux au ciel, les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. Si vous regardez les récits de l'institution, on ne voit pas que Jésus lève les yeux au ciel. En revanche, il le fait à la multiplication des pains, il le fait avant la prière sacerdotale dans Saint Jean. Mais ça ajoute à ce sens sacré qui est très présent dans la prière, le canon romain. Et bon, voilà, alors ça peut nous aider quelquefois justement d'avoir un peu plus ce sens du sacré. Dans la prière eucharistique 2 et la 3, elles suivent de près le texte de Saint Paul aux Corinthiens. La nuit où il fut livré, on parle de Jésus qui s'est livré à ce moment-là. Alors, donc, l'Église latine a essayé de suivre le plus près possible les paroles de la consécration, telles qu'elles sont dans la parole de Dieu. Et ce qui est important, c'est dans tous les cas, parce qu'on voit bien dans, donc on le voit dans les trois évangiles synoptiques, dans Saint Paul aussi, qui nous rappelle ça dans la première épître aux Corinthiens, il y a le lien qui est très fort entre le repas et la passion de Jésus. Le repas du jeudi saint et la passion de Jésus. Hein. C'est le corps livré, le sang versé. Donc c'est quelque chose qui est bien présent dans, et qu'on retrouve dans les prières eucharistiques. Saint Paul qui nous dit « Le Christ vous a aimé et s'est livré pour vous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. » Dans les formules de la consécration, en fait, l'Église, en tout cas après Vatican II, a voulu uniformiser un petit peu les prières de la consécration. Aussi, elle a retenu la formule la plus complète qui prend tous les éléments de Saint Matthieu, etc. Elle a tout mis dedans. Aussi, pour une raison très pratique, que le prêtre ne se trompe pas, c'est toujours la même chose, donc on lui facilite la tâche. Voilà. Après la consécration, il y a l'élévation. Savez-vous quand est apparue cette élévation? Quel est le but de l'élévation après la consécration? Exactement. C'est quelque chose de fonctionnel, entre guillemets. C'est pour qu'on voit, ça c'est notamment à partir du 13e, semble-t-il, on ne sait pas exactement, mais à partir du 13e, aussi parce que dans les églises gothiques, il faisait un moins noir, donc on pouvait voir un peu plus. Après, il y a des choses très concrètes qui peuvent influer. Mais aussi, à cette époque, il y en a qui mettaient un peu en doute la présence réelle de Jésus. Donc, on insiste pour bien voir. Alors, d'autant plus qu'à l'époque, il fallait que ça soit au-dessus de la tête du prêtre pour qu'il puisse voir, hein, puisqu'il ne célébrait pas face au peuple. Donc, ben, pour le corps et pour le sang.
Non, il y a la petite et la grande.
Alors, et c'est celle qu'on appelle la petite est en fait la plus grande. C'est à la fin, on en parlera quand on arrivera à la doxologie. Ça, en fait, ça n'a pas le même sens. À ce moment-là, ce n'est pas pour montrer, c'est plus en signe d'offrande, la dernière évolution. Ce n'est pas pour voir, c'est pour offrir. Donc, ça a un sens différent. Mais là, c'est beau de aussi, pendant la messe, de faire une petite pause d'adoration, en quelque sorte, au moment où c'est devenu le corps de Jésus, c'est devenu le sang de Jésus. Et souvent, certains font un signe d'adoration, ils s'inclinent, à ce moment-là. Et bon, ça a tout à fait sa place. Donc, c'est le récit de l'institution. Après, on arrive à l'anamnèse. Je vous lis la présentation du missel romain. En accomplissant l'ordre qu'elle a reçu du Christ par l'intermédiaire des apôtres, le mandatum, l'Église fait mémoire du Christ lui-même en célébrant principalement sa bienheureuse passion, sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel. L'anamnèse, Alors, il y a le prêtre qui fait l'invitation, il est grand, le mystère de la foi. Alors, il y a plusieurs... en français, on a plusieurs formules parce que c'est plus facile de savoir ce qu'il faut répondre. Donc, on a distingué les formules. Alors, comment comprendre cette invitation? Il est grand, le mystère de la foi. Alors, on pourrait le comprendre, c'est grand. De croire en Jésus présent, l'Eucharistie, c'est un mystère de foi. Hein. Mais quelque part, c'est quelque chose qui est plus large que ça. C'est le fait que le salut que Jésus nous a obtenu sur la croix nous rejoint tous les peuples et tous les lieux, tous les temps. Alors c'est ça aussi le mystère de la foi, c'est savoir comment on est sauvé par Jésus qui a donné sa vie une fois pour toutes sur la croix. Et en tout cas, la réponse des fidèles va plutôt dans ce sens-là, puisqu'il dit... nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Là, on voit le mémorial. C'est vraiment le mémorial qui est présent, hein, quelque chose qui s'est réalisé un jour sur le Golgotha, mais qui est rendu présent. Hein, vous savez que la messe, il y a un peu deux miracles, hein, en quelque sorte, si, pour dire. Il y a le fait que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, mais il y a le fait aussi qu'on est rendu présent à la croix de Jésus, ou que la croix de Jésus est actualisée pour nous. Hein, alors, la croix avec le sang, etc., c'est une fois sur le Golgotha. Hein, mais c'est la grâce aussi de cette offrande de Jésus. Elle nous est donnée pour aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Et si on offre, s'il y a des intentions pour la messe, c'est comme pour dire, ben voilà, Jésus a offert aussi sa vie pour cette intention-là. Donc, c'est actualiser aussi le sacrifice de Jésus qui a donné pour tous les lieux et tous les temps, pour tous les hommes. Alors, dans les réponses... Des fidèles, ça cite, c'est beaucoup nourri de la parole de Dieu, de l'Écriture, hein, l'Épître aux Corinthiens, Saint Paul qui dit « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous nous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Saint Paul, oui, « Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. » Alors, je vais peut-être m'arrêter quelques minutes sur le mémorial. Qu'est-ce que ça veut dire, le mémorial? Parce que c'est quelque chose qui est bien présent dans la liturgie eucharistique. Après, dans le canon romain, on dit « C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande. » Ça, c'est quelque chose qui était, on l'a juste évoqué au début, très présent chez les Juifs, de faire mémoire de l'œuvre de Dieu. Pour nous, c'est toujours important de faire mémoire de l'œuvre de Dieu, pas de manière nostalgique, comme si c'était quelque chose de révolu et... mais justement pour l'actualiser quelque part. La célébration de l'Alliance rend contemporain à la fois son instauration au Sinaï, hein, mais aussi sa consommation dans les temps messianiques. Ça nous ramène au passé, mais pour l'actualiser dans le présent et nous préparer à l'avenir. Et ça, c'est parce que, quelque part, nous, on est sur Terre, dans une époque, etc., mais ça nous... connecte à l'éternité de Dieu. Hein, devant Dieu, il n'y a pas de passé, présent, avenir. Tout est présent au regard de Dieu. Et alors, le mémorial dans la liturgie, c'est vraiment, on est plongé quelque part. C'est un peu ça que désire, auquel veut nous préparer la préface et le Sanctus. Hein, vous vous rappelez, la préface et le Sanctus, c'est comme pour élevons notre cœur. C'est pour pas être simplement dans nos préoccupations purement terrestres, mais pour être déjà un petit peu au ciel, quelque part, dans l'éternité de Dieu. Et hélas, quelquefois, c'est le moment où on a tendance à somnoler. Oh, que c'est dommage. Oui, par le sacrement de l'Eucharistie, nous devenons dans le mystère contemporain de l'événement. L'événement se fait pour nous présent et nous pour l'événement présent. Chaque chrétien doit se considérer comme s'il avait été personnellement cet après-midi-là sous la croix, en même temps que Marie et Jean. Oui, nous étions là, c'est là que nous sommes nés. Et nous rappelons Jésus au Père pour que le Père se souvienne de nous. Et maintenant, Père, rappelle-toi tous ceux pour qui nous t'offrons ce sacrifice. C'est vraiment rendre présent le sacrifice de Jésus. J'arrive au cinquième point, qui est la deuxième épiclèse. La première, on imposait les mains sur les offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, et pour que se renouvelle sacramentellement le sacrifice du calvaire. La deuxième, c'est sur les fidèles, afin qu'ils apprennent, nous dit l'introduction au missel, à s'offrir eux-mêmes et soient consommés de jour en jour par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux, pour qu'à la fin Dieu soit tout en tous. Donc c'est l'Esprit Saint là aussi qui peut nous donner de nous offrir en sacrifice à la suite de Jésus. Les fruits de ce sacrifice, c'est la réconciliation. On voit que c'est parce que Jésus a donné sa vie pour la réconciliation. On voit qu'il y en a bien besoin aujourd'hui entre les hommes, quelquefois dans nos familles, etc. Il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Voilà, alors, juste, vous voyez, il y a l'épiclèse sur les offrandes, il y a la consécration, et après, justement, deuxième épiclèse, c'est vraiment pour, si on a des grâces d'unité à implorer, c'est le moment ou jamais, pour l'unité des... Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Après, on arrive aux intercessions. Alors, il y en a plusieurs. On le voit assez bien dans la prière numéro 3. D'abord, on évoque les saints. Dans la prière 1, on les évoque au début de la prière et à la fin de la prière, il y a deux séries de saints. Parce que, voilà, ça nous projette déjà vers le ciel. Quelque part, dans ces intercessions, on a ce qu'on appelle les trois états de l'Église. Vous savez, l'Église triomphante, pérégrinante et souffrante, ça vous dit quelque chose? C'est des termes qui font un peu vieillot, peut-être, okay. Mais en tout cas, c'est pas du triomphalisme. L'Église triomphante, c'est les saints, en fait. C'est ceux qui sont déjà arrivés au ciel. L'Église pérégrinante, c'est nous, tous ceux qui sont sur la terre dans le temps de la grande épreuve, on pourrait dire. Et puis l'Église souffrante, ça ne se réfère pas à ceux qui sont malades ou voilà, qui souffrent dans leur corps, mais plutôt à ceux qui sont purgatoires. Et du coup, vous voyez que les trois intercessions, ça correspond à ça. La première, c'est... On se tourne plutôt vers les saints et on leur demande d'intercéder pour nous aussi. Ça, c'est qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Donc, c'est... Ah oui, une petite question de fait. Je ne sais plus où je m'en mêle un peu dans mes papiers, ce n'est pas grave. Donc, on nomme toujours dans les intercessions... On nomme toujours la Sainte Vierge parmi les saints. Et Saint Joseph, depuis quand on nomme Saint Joseph? Alors, dans la prière numéro 1, c'était depuis 1963, c'était sous Jean 23, il avait voulu qu'on nomme Saint Joseph aussi. Donc c'est assez récent finalement. Et dans les autres trois autres prières, c'est Benoît XVI, Joseph Ratzinger, qui avait désiré. Mais de fait, il a renoncé entre-temps et c'est le pape François qui l'a mis en œuvre en quelque sorte. Hein. Donc c'est donc Saint Joseph, l'époux de Marie, est rajouté dans les prières eucharistiques 2, 3 et 4 depuis donc un peu plus de 10 ans. Ce qui est beau, c'est que peut-être dans toutes ces intercessions, notre prière elle se fait plus concrète. Alors bon, il y a tous les saints qu'on peut invoquer. Et après, on invoque « et maintenant », ça c'est « et ton monde entier, le salut et la paix, affermis ton Église ». Alors là, on nomme le pape, toujours. Alors au mois de mai, pendant quelques jours, l'an dernier, il n'y avait plus de nom. Et puis notre évêque. Et par exemple, si je vais célébrer à Amiens, c'est l'évêque d'Amiens que je nomme. C'est toujours l'évêque du diocèse où on célèbre. Ce n'est pas notre diocèse d'origine. Mais du coup, c'est, voilà, ce lien avec l'Église l'Église qui est à Beauvais, l'Église qui est à Amiens, etc. On parle aussi des diacres dans la prière numéro 3. Pas dans toutes, mais dans celle-là, on en parle. Et puis, là, quelquefois, on rajoute des intercessions. Par exemple, ces jours-ci, pour les nouveaux baptisés de Pâques. Donc, c'est à ce moment-là. Ça, c'est vraiment pour les vivants. Et maintenant, voilà. Et puis après, donc, il y a trois triomphantes, si on garde pérégrinantes. Ceux qui sont sur terre maintenant, et puis après pour nos frères et sœurs défunts. Alors on voit aussi là que l'intercession, elle rejoint pas seulement ceux qui croyaient en Jésus. Pour nos frères et sœurs défunts, ça c'est ceux qui croyaient en Jésus, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, ça c'est ceux qui ont quitté ce monde mais qui croyaient pas forcément en Jésus. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Ça veut dire que c'est compliqué de désirer aller au ciel si on ne veut pas être à côté de quelqu'un. Alors imaginez, est-ce qu'il y a des personnes auprès de qui vous ne voudriez pas être au ciel? Il y a peut-être un peu de chemin à faire parce que sinon il y aura peut-être un peu de purgatoire à faire pour être prêt. Allez. On parle volontiers de l'Église comme d'une famille. Il y a des thèmes qui sont assez.
Mais c'est là aussi qu'on voit que l'Église n'est pas sclérosée.
Oui, alors ça veut dire effectivement que. C'est l'Église qui a un mandat qui est chargé de. Autant chaque prêtre prie individuellement, il ne peut pas inventer sa prière eucharistique à volonté. Mais en revanche, l'Église a reçu mandat pour. Et qui, selon la sensibilité, parce que notre sensibilité, elle évolue aussi. Il y a des choses qui sont ajoutées, etc., effectivement. Et voilà. Quand on prie pour les défunts, ça c'est quelque chose qui est très ancien de prier pour les défunts. Vous le trouvez avant même Jésus, hein, c'est le deuxième siècle avant Jésus, je crois. Vous vous rappelez de cet épisode, c'est dans les Maccabées, on appelle ça maintenant « Martyr d'Israël », le livre des... Il y a des soldats qui meurent au combat, et quand ils vont relever les corps, ils voient qu'ils ont des amulettes. Et qui, voilà, c'était des objets consacrés aux idoles. Donc ils disent, c'est bien fait pour eux. Non, ils disent pas exactement ça, justement. Ils disent, ben non, on comprend pourquoi ils sont morts, mais on va prier pour eux. Alors, voilà ce qui est dit, c'est au chapitre 12 de Maccabée. Tous se mirent en prière en demandant que la faute commise fût entièrement effacée. Une collecte est organisée pour qu'on offrit à Jérusalem un sacrifice expiatoire afin qu'ils fussent absous de leurs péchés. Donc ça, c'est vraiment la prière pour les défunts qui est déjà à la fin de l'Ancien Testament. Et alors, du coup, dans l'Église, bien sûr, on prie pour les défunts. Alors, quand c'est une messe spécialement pour les défunts, il y a un paragraphe qu'on ajoute qui fait référence à Saint Paul, à l'Apocalypse aussi, hein, parce que, par exemple, on nous dit « Souviens-toi de celui de celle qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. » Ça, c'est inspiré de Saint Paul qui dit « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. » Bon, nous, on ne repère pas forcément si on n'est pas familier de la parole de Dieu. Et après, alors ça c'est plus facile, « En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux. » Et alors, de l'Apocalypse qui nous dit « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Donc c'est, voilà. Alors ça, pour la messe pour les défunts, on peut rajouter quelques petits paragraphes. Et j'arrive au point numéro 7, la doxologie. En fait, c'est la grande doxologie, même si elle était appelée la petite. C'est vraiment la grande... où on souligne que tout se fait par Jésus, avec lui, en lui. Hein, vrai, Jésus, il est vraiment au centre. Comme dit saint Paul, tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire éternellement. Ça reprend beaucoup des textes de saint Paul aussi. À Dieu seul, qui seul est sage, par Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Alors, mais je peux vous citer d'une instruction de 1980, parce qu'après le concile, c'est arrivé que quelquefois cette doxologie, tout le monde la prenait d'un seul cœur. Alors donc, c'était un peu corrigé pour dire non, vous, votre rôle, c'est de dire Amen. La doxologie, ça reste le rôle du prêtre. Je vous lis ce que dit l'instruction du 3 avril 1980. La proclamation de la prière eucharistique, qui de par sa nature est comme le sommet de toute célébration, est réservée au prêtre en vertu de son ordination. Ce n'est pas pour cela que l'assemblée reste passive et inerte. En silence, elle s'unit au prêtre par la foi. Elle exprime son adhésion par les diverses interventions prévues au cours du déroulement de la prière eucharistique. Réponse au dialogue de la préface, sanctus, acclamation après la consécration, et amen final après le péripsum, qui lui aussi est réservé au prêtre. Cet amen final en particulier devrait être mis en valeur par le chant, car il est le plus important de tous ceux de la messe. Voilà. Donc c'est... Alors, quelquefois, effectivement, il y a plusieurs amen un peu solennels et qui ont bien leur place, hein, parce que c'est vraiment la conclusion de la prière. Oui, ce geste solennel d'offrande est plus important que celui de la consécration, car alors il ne s'agit pas de faire voir, mais d'offrir. C'est Dieu qui est le destinataire. Quand on élève après l'élévation, c'est les gens pour qu'ils voient. Tandis qu'à la fin, c'est pour que Dieu, c'est à Dieu qu'on s'adresse.
D'adhésion,
effectivement. Adhésion. Oui, pour exprimer notre foi, c'est pas toujours facile à traduire cet amen. Autrefois, on disait ainsi soit-il, mais c'est un peu restrictif, parce que quand Jésus dit qu'il est l'amen du Père, c'est pas ainsi soit-il, c'est, mais c'est plutôt dans le sens de dire qu'il est le, justement celui qui, je ne sais même pas très bien comment dire, mais qu'il est, et c'est le fidèle, c'est celui qui est, c'est une adhésion, et de, oui, une, la fidélité sur laquelle on peut s'appuyer. Mais voilà ce que dit saint Paul. Par l'amen qui conclut la prière eucharistique, nous professons notre foi en la présence du Christ et notre décision de nous associer à l'offrande du Christ mort et ressuscité pour le salut du monde. Voilà le sens. Et saint Paul qui dit, le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a pas été oui et non, il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons notre, à Dieu notre amen, notre oui pour sa gloire.
Quel est le lien entre le amen quand Jésus parle, il commence par
amen, amen, je vous le dis, ça manifeste une certaine solennité dans ce que Jésus va dire, et que c'est véritable qu'on peut, d'une autre manière, hein, mais on est appelé à écouter le pape avec bienveillance toujours. Mais dans certains cas, il engage son infaillibilité, donc c'est quelque chose de beaucoup plus solennel. Alors, il y a des formes assez précises aussi pour... Donc, quelque part, quand Jésus dit ça, ça attire notre attention. Voilà, ça, c'est quelque chose d'important que Jésus... Où Jésus engage vraiment, s'engage vraiment. Ben, c'est, alors, cet amen, quand le prêtre nous dit le corps du Christ, c'est et si on répond amen, c'est qu'on y croit. Si on n'y croit pas, il ne faut pas dire amen. C'est qu'on y croit et quelque part qu'on veut y correspondre, parce qu'on ne veut pas recevoir le corps du Christ en vivant en ennemi de Jésus. Donc, quelque part, ça nous engage. C'est une vraie... Non, non, ça en amène un peu différent, oui, je suis d'accord. Mais il y a toujours cette adhésion et cette... oui. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Vous avez des questions ? Alors, le but finalement, je crois, ultime, c'est de mieux goûter la prière eucharistique et mieux s'associer à ce qui se passe pendant la prière eucharistique. Quelle que soit la prière qui soit choisie par le prêtre. Mais celle-ci a l'avantage de bien voir, voilà. Et ça peut structurer un peu notre prière. On voit vraiment dans la parole de Dieu, on voit souvent le peuple d'Israël qui fait mémoire de la bonté de Dieu, et ça nous aide à aller de l'avant. Et ça nous donne, ça nous rend confiant qu'on peut tout lui demander. Parce qu'il a déjà exaucé des demandes par le passé. C'est vraiment un mouvement qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu.